Bonsoir à l'Assemblée.
Bonsoir.
Et bienvenue. Et je ne sais pas qui me voit, parce que moi je ne vois pas ceux qui me voient. Alors, vous êtes parmi Dieu, vous qui me voyez. Lui il me voit, n'est-ce pas? Voilà, bienvenue à ce culte du mercredi soir, et je veux prier. Ah, je vois Julio. Bonjour. Il est tout petit, parce qu'il est loin. Et moi, je dois être petit aussi. Merci, merci pour ce moment. Et je te prie d'être présent et de réveiller en nous des choses que nous savons et que nous avons vécu et que nous chérissons. Merci de nous donner un moment béni au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai déjà dit à Paul que si je donnais un titre à ce message, c'est le plus grand miracle que tout le monde peut vivre personnellement, c'est-à-dire celui de donner son cœur à Dieu. Ça, c'est le plus grand miracle. C'est moi qui qualifie ça, mais il faut vraiment considérer ça comme quelque chose de formidable. Et comme vous avez entendu, demain soir, nous aurons un cours avec Pasteur Tony. Et lundi soir, nous avons eu un premier cours en vidéo où Pasteur Texier parlait. Et il parlait des lacunes d'interprétation de la Bible, des lacunes qui ont donné des hérésies ou des déviations, des exagérations de différents genres. Entre deux exemples, par exemple, c'est exagéré de chercher absolument les dons spirituels. Hein. Et aussi, par exemple, dans ce contexte de vouloir faire une doctrine pertinente du parler en langue, de rechercher des miracles, à part celui que je viens de vous dire, celui-là est gratuit, et considérons-le. Et Pasteur Texier disait aussi dans ce cours, quelqu'un donnait un témoignage, et ça durait très longtemps. Et dans son témoignage, il passait toutes les étapes de l'influence du diable dans sa vie. Finalement, il parlait beaucoup plus du diable que du fait que Jésus l'avait sauvé. Il s'est converti. Donc, tout ça, c'est on peut l'éviter en étant proche de la parole de Dieu. Et je crois aussi que nous aimerions vraiment tous donner des témoignages spectaculaires, de pouvoir raconter un miracle vécu, mais ce n'est pas quelque chose de quotidien quand même. Et il disait aussi je reste toujours dans le résumé de un petit peu du cours, il disait que les premiers chrétiens, il a dû leur écrire le verset 1 Thessaloniciens 4, 13 parce que ces chrétiens, ils attendaient le retour de Christ durant leur vivant. Or, ça n'arrivait pas, il y en a qui mouraient, et ils ont perdu l'espérance. Il faut pas perdre l'espérance. C'est totalement faux. Et ça, c'est valable pour nous. Même si demain je meurs et que l'Église continue, je dois quand même garder mon espérance encore cette nuit, n'est-ce pas? Et il disait aussi qu'un tiers de la Bible sont des prophéties. Certaines sont déjà accomplies, d'autres doivent encore se réaliser. Croyons que tout s'accomplira. Tout, tout, tout. C'est ce fameux verset en Matthieu 5, 17, jusqu'au moindre iota, le moindre iota de la loi, c'est-à-dire l'équivalent du plus petit caractère hébreu. Voilà. Et là, je vais passer davantage sur mon sujet. Je crois que la plus grande tristesse personnelle que nous devrions avoir en nous, les croyants, c'est qu'une personne qui nous est chère décède et nous sommes presque sûrs, parce qu'on ne peut jamais être sûr, que la personne a sciemment refusé Christ. Ça doit nous rendre tristes. Et ça m'amène par contre à relever le contraire lorsque ce que Romains 10, versets 8 à 10 arrive. On va passer en revue ces versets. Alors, il y a à peu près le troisième mot, je pense. Mais la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses, et le mot confesse, c'est pas aller faire pénitence comme on voit ça chez les catholiques, mais c'est un mot homologeo. Et homologeo, vous connaissez ça même dans les sphères public, on homologue quelque chose, on homologue le Seigneur Jésus, et si tu crois, et le mot croit, c'est pisteo, et ça c'est une racine dans le mot pistis, qui est là pour dire foi. Et nous savons que la foi est un compartiment du fruit de l'esprit décrit en Galates 5, 22, où il est souvent traduit par fidélité. Donc, si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et sauvé, c'est le verbe zozo, S-O-Z-O, et c'est une déviation du sujet, comment on appelle, il y a les verbes et les... Non, c'est pas c'est le mot salut, en fait, et qui veut dire soteria. Soteria, et ce mot est utilisé dans une doctrine bien connue parmi tous les chrétiens, l'étude de la sotériologie. Donc, verset 10, car c'est en croyant, pisteo, qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant, homologeo, de la bouche qu'on parvient au salut, soteria. Et vous voyez ce passage, Paul a répété ce qu'il a dit sous deux formes. Donc, quand quelque chose est dit deux fois à la suite dans la Bible, c'est que c'est important. Well, personnellement, je voudrais dire que Je crois et je confesse dans mon cœur le Seigneur Jésus et que Dieu l'a ressuscité des morts. Et j'espère que vous de même. Et je désire vous communiquer que si vous l'avez fait ou s'il y a des gens qui nous écoutent, et si font cette démarche personnellement, de considérer que c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand miracle qui vous est arrivé. C'est bien un miracle énorme qu'un cœur qui se donne à Dieu, n'est-ce pas? Et vous savez, c'est tellement infime, on ne peut pas saisir la foi, on ne peut pas la saisir. En même temps, ce n'est rien d'autre que la porte d'entrée dans l'éternité avec Dieu. Ce n'est pas rien, non? Et est-ce que dans votre intérieur, vous n'entendez pas la conscience qui vous dit « Il faut que cela arrive à mon prochain. » Et cette voix nous dit « Je dois lui en parler, même si je me sens maladroit. » C'est très important d'en parler. C'est le témoignage personnel, ce que ça m'a fait. Et ce que je considère avoir reçu, parce qu'on reçoit la foi. Quand on a vécu ce miracle unique et sensationnel, ça devient comme un must du cœur, un must du cœur d'apprendre à devenir intime avec mon Sauveur. Ce Sauveur qui est ce frère aîné éternel, il nous considère comme ses plus jeunes frères, ce réel ami qui aime en tout temps, Proverbe 17:17. Ce père, vous savez, un père, il a une autorité à la fois, mais il est aussi là pour pouvoir, pour soutenir, pour consoler. Vraiment, le père, c'est une figure importante. Celui qu'on appelle amour, Dieu est amour, le vrai amour, pas la sympathie, la préférence, le vrai amour. N'oublions pas que Dieu s'est abaissé pour devenir être humain comme vous et moi, en Jésus-Christ. Il est devenu homme comme moi. Il s'est tenu debout comme je me tiens debout. Il s'est assis comme d'autres s'assoient. Et nous le verrons un jour. Nous le verrons, cet homme Jésus. Et je suppose, nous le verrons comme Pierre, Jacques et Jean l'ont vu lors de la transfiguration que vous pouvez regarder, lire dans Marc 9. Mais avec la marque de ses blessures pour moi. Et devenir intime, c'est de découvrir tout le cheminement de la manifestation de Dieu depuis qu'il s'est laissé reconnaître et qu'il a dialogué avec l'être humain. Et vous savez très bien, en famille, on a des albums photos. Quand on se réunit, ça réjouit tellement d'évoquer des souvenirs de famille. Faisons la même chose en compagnie de Dieu au moyen de la Bible. C'est seulement lorsque je suis devenu croyant moi-même que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à sa parole. Parce que je pense que ça arrive à beaucoup de monde. On est dans un pays dit chrétien. On a peut-être même plusieurs Bibles à la maison ou des Bibles en plus différentes langues. Mais ces Bibles, jamais on les a ouverts parce que on n'a pas eu l'attirance par le cœur pour le faire. Et ça, c'est pour ça que je dis, quand je suis devenu croyant, j'ai commencé à m'y intéresser. Et c'est formidable. Être intime avec Dieu, c'est aussi faire connaissance avec le cœur de mon Papa céleste éternel, qui lui, finalement, on doit aussi s'en souvenir, c'est lui qui a permis que j'existe. C'est lui qui avait prévu de toute éternité que Helmut existerait un jour. Et chacun peut se rendre compte qu'il existe grâce à Dieu et que j'ai reçu, comme il est dit au début de la Bible, une partie à sa ressemblance. Donc, c'est nous qui ressemblons à Jésus, en fait. Et j'appellerais cette infime partie un atome de Dieu, un atome de Dieu. Et cet atome est censé provoquer une réaction en chaîne pour exploser ou naître dans d'autres cœurs. Et comme disait Pasteur Texier, l'apprentissage de Dieu, même pour un pasteur chevronné, ou l'étude de sa parole, elle ne se terminera que lorsque nous serons auprès de Dieu. Peut-être que je ne réalise pas de façon frappante les incidences de ma conversion. Il y a des gens qui rencontrent Dieu ils ont des réactions différentes. Pour certains, elles peuvent être immédiates, ces réactions. Pour d'autres, c'est un début d'un long processus. Et je pense, par exemple, à ce qu'explique Pasteur Chibeli, n'est-ce pas ? J'ai mis entre parenthèses, j'ai entendu parler de lui. Il était en quelque sorte sympathisant des mafiosi ou faisait partie de la famille des mafiosi, ce qui n'est pas formidable pour ceux qui savent ce que c'est. Et il est devenu missionnaire efficace et implanteur d'églises en Afrique. Et on l'appelle le lion d'Afrique, d'ailleurs, Baltimore, je crois, ou ailleurs, sûrement, aussi. Et il a beaucoup d'amis en Afrique, en tout cas. Et pour autant que l'on puisse comparer ainsi, il y a aussi l'apôtre Paul, sur la route de Damas. En 2 ou 3 jours seulement, il a changé du tout au tout. Et il est devenu de légaliste, persécuteur féroce. Il est devenu apôtre et évangéliste et merveilleux écrivain, c'est-à-dire docteur en écriture. Que dire d'Abraham sans le H ? Avant de devenir Abraham, ça ressemble aussi à une conversion. Hein? Quand il était Abraham, il a manqué de confiance en la promesse d'une descendance à travers sa famille sanguine, enfin la femme qu'il avait épousée, et il a choisi une PAA. On parle maintenant de PMA pour les votations. Et là, j'ai trouvé l'expression procréation assistée abrahamique. PAA. Donc Israël et même nous, les chrétiens, subissons encore les conséquences. Vous savez, d'où vient l'islam, n'est-ce pas? Et aussi, on peut dire, les changements de comportement d'un Jacob tricheur après sa lutte avec Dieu et son nouveau nom reçu à Israël. Voilà. Et récemment, enfin pas si récent, mais au début de 2000 ou quelque temps après, c'était quand Pasteur Tony arrivait, il y avait Pasteur Pierre-André, il prêchait un jour, il faisait un appel au salut, et ce jeune homme qui entendait la prédication, l'appel au salut, il ne réagissait pas au culte, mais il nous a dit plus tard, je rentrais chez moi, je regardais un match de foot à la télé, et tout d'un coup, j'ai levé la main. Oui, je veux recevoir Jésus. Moi-même, c'était plus intérieur. Et ce que je ressens, c'est vraiment fortement le besoin d'évangéliser. Je dois me prouver que je veux témoigner. Et avec le temps, vaincre une sorte de timidité ou une sorte de crainte de mal le faire. Mes convictions sur le comportement ou les comportements moraux change ou s'installe petit à petit. Ça, c'est un processus. Par exemple, au tout début, on buvait encore de l'alcool, mais j'étais convaincu par le verset en Éphésiens 5, 20, je crois. Ne vous enivrez pas mais de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ce genre de conviction s'installe petit à petit. Et j'ai toujours pensé en moi-même que c'est tellement génial avec la parole de Dieu, c'est que nous avons reçu la vraie vérité, la vérité pure sur sa volonté. Et ceci, c'est envers et contre toutes les tendances de ce monde. Ce qui me chagrine actuellement, et je le dis souvent, c'est le manque global de mettre Dieu en avant. Regardez, on a enlevé de parler de notre Créateur, on l'a enlevé des écoles, on a trop mis d'humanisme. Et l'autre chose qui me chagrine, c'est tout ce que le monde met de plus en avant comme, entre guillemets, sympathique, mais qu'en réalité Dieu désigne comme péché. J'aimerais un peu développer sur le thème péché un bref instant. En 1 Corinthiens 6, on va lire les versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Et là, c'est pas très joli, hein, tout ça. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Probablement, parmi nous, ou vous, il n'y a personne qui était ainsi dépravé avant d'être converti. Moi, c'est mon sentiment. Mais avant d'être convertis, ça ne nous préoccupait pas. Alors que maintenant, au moins, nos cœurs sont opposés à soutenir de tels comportements. Et ça, c'est une grande difficulté d'exprimer cette opposition tout en aimant les gens qui sont ainsi. C'est vrai que c'est difficile. Comment on peut parler parce que c'est aussi de l'amour de dire la vérité à quelqu'un qui ne fait pas comme il devrait faire. Et ne faisons surtout pas ce que Paul dit en Romains 1, 32. C'est le thème des déviations sexuelles, je pense, sur l'homosexualité spécialement. Mais ça s'applique à tout. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Il ne faut pas approuver ceux qui font des choses comme ça. Pasteur Texier a donné une explication de la nuance entre le péché au singulier et les péchés pluriels. Le péché, moi j'ajouterais celui transmis depuis la chute, Pasteur Texier n'avait pas dit ça, mais c'est celui-là, et la machine qui produit les péchés. C'est pourquoi je dois regretter, me repentir et demander pardon à Dieu pour le péché. Et si je suis proche de lui, Dieu m'aide à ne plus laisser cette machine produire des péchés. Mais ma nouvelle nature, c'est celle de Dieu, est entièrement d'accord avec Dieu. Et elle est en constante lutte avec mon ancienne nature, jusqu'à ce que je sois auprès de lui. Et il y a peut-être ces versets qui ont un rapport avec ce péché singulier et les péchés pluriels. En 1 Jean 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Et ensuite, on a ce fameux verset 1 Jean 1, 9, si vous confessez, etc. Mais en 1 Jean 3, 6, on dirait presque ça contredit 1 Jean 1, 8. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu ni ne l'a pas connu. Ou alors une autre version qui dit « Nul qui demeure en lui ne pêche, nul qui pêche ne l'a vu. » Voilà. Donc ça se tient. Les conséquences du plus grand miracle dans ma vie personnelle, moi je le ressens comme ça, seront davantage concernant mon avenir après ma mort, c'est-à-dire mon éternité avec Dieu. Et c'est ce si grand salut. Il y a un verset qui dit ça. Cependant, j'en possède tout cela. Je possède tout cela en espérance. Vous savez, il y a même un slogan populaire qui dit « L'espoir fait vivre ». Donc, l'espérance en Dieu fait vivre avec Dieu. Et encore lundi soir, Pasteur Texier a dit une phrase assez profonde, je trouve. C'est pour ça que j'aimerais la répéter. Il a dit, parce qu'il y aura un cours qui donne sur l'eschatologie. Et moi, je ne le regarde pas. Je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui le prennent. Et ça, c'est l'étude de la fin des temps. Et l'eschatologie est là pour nous encourager. Nous n'avons absolument rien à craindre de la fin des temps. Souvent, nous en avons une compréhension, voire une interprétation, qui est mêlée à la recherche du sensationnel. Vous savez qu'il y a des films là-dessus, spectaculaires, voire nous avons même une appréhension d'horreur de ces malheurs annoncés. Mais, je vous laisse avec ça, approchant ce thème pour nous encourager. Ça, c'est encore un appui sur l'espérance pour nous. Amen. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Bien, bonne soirée. Père Céleste, je te prie de faire poursuivre le dialogue avec toi de nos cœurs et nous faire grandir. Merci de nous protéger. Merci d'être avec tous ceux qui sont abattus. Merci d'être avec ceux qui ont besoin de guérir, de donner le remède, de donner la récupération de la santé. Merci au nom de Jésus. Amen.